À l'occasion du bicentenaire du sacerdoce du bienheureux Louis-Édouard Sestac, les servantes de Marie accueillaient samedi 29 novembre 2025 la journée jubilaire diocésaine des personnes en précarité, organisée en collaboration avec le service Diaconie Solidarité du diocèse de Bayonne à Notre-Dame du Refuge à Anglette. Lors de cette journée au programme riche et fraternel, Mgr Pierre de Berger a été invité à présenter l'exhortation apostolique du pape Dilexite, je t'ai aimé. Pierre de Berger est un prêtre du diocèse d'Eredax, théologien, recteur émérite de l'Institut catholique de Toulouse. Il a été nommé prélat d'honneur de sa sainteté par le pape Benoît XVI en 2007. Il est actuellement vicaire épiscopal pour le pays d'Acquoy, délégué épiscopal à la formation et accompagnateur de la pastorale de la santé. Dilexite, je t'ai aimé, une présentation de cette exhortation apostolique par Mgr Pierre de Berger que nous écoutons.
Voilà, merci beaucoup et merci de m'accueillir parmi vous. À vrai dire, j'ai une dette envers les servantes de Marie. C'est que lorsque j'étudiais à Rome, il y a bien des années, les servantes de Marie avaient la charge du séminaire français, de l'économa, des affaires de la nourriture, des affaires matérielles. Et donc, arrivant des Landes, tout jeune et un peu craintif, je dois dire que j'ai bénéficié de leur accueil et de leur soutien. Mon expérience à Rome a aussi été très marquée par la fréquentation de personnes en situation d'handicap mental, de problèmes psychiques. Et je dois dire que, alors même que je faisais un parcours, on va dire oui, un parcours universitaire, un peu intellectuel, la rencontre de ces personnes, de leur famille, m'a énormément marqué. Et c'est vrai que c'est aussi pour elle que j'ai accepté d'intervenir ce matin. Je remercie Sœur Isabelle. Je vais vous présenter cette exhortation apostolique du pape Léon XIV. Exhortation apostolique sur l'amour envers les pauvres. Je crois que quand on la lit, on ne peut pas rester indemne. Voilà, c'est un texte bouleversant. Et je vous invite vraiment à la lire, à la méditer, à la lire en équipe. Mais on s'en voit bien qu'il y a tout le pape François, mais il y a aussi le pape Léon. Et c'est magnifique de voir la continuité qu'il y a entre ces deux papes. Le pape Léon XIV, dont on voit bien qu'il a vraiment achevé ce texte, et il l'a achevé avec sa main, avec son style. « Je t'ai aimé ». C'est une phrase dans le livre de l'Apocalypse que le Seigneur Jésus adresse à une communauté de Turquie, d'Asie mineure, là où est le pape aujourd'hui, ces jours-ci. Et c'est une communauté pauvre. Une communauté qui rencontre des difficultés. Et le Seigneur lui dit « Je t'ai aimé ». Et évidemment, la lettre apostolique commence ainsi, et vous verrez après comment elle se termine. Le constat que fait le pape d'abord, je ne vais pas tout vous lire, c'est que la pauvreté a grandi. Voilà, elle a grandi dans notre humanité. Je lis, la condition des pauvres est un cri qui, dans l'histoire de l'humanité, interpelle constamment notre vie, nos sociétés, nos systèmes politiques et économiques, et enfin, surtout, l'Église. Sur le visage meurtri des pauvres, nous voyons imprimer la souffrance des innocents. Et le pape ajoute, et par conséquent, la souffrance même du Christ. C'est la souffrance du Christ qui se donne à voir sur le visage des pauvres. Et le Saint-Père évoque diverses formes de pauvreté, celles de ceux qui n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins matériels, celles de ceux qui sont socialement marginalisés, celles de ceux qui n'ont pas les moyens d'exprimer leur dignité et leur potentialité. La pauvreté morale et spirituelle, la pauvreté culturelle, celle de ceux qui se trouvent dans une situation de faiblesse et de fragilité, la pauvreté de ceux qui n'ont pas de droit, pas de place, pas de liberté. Et un peu plus loin, on peut lire aussi « Doublement pauvres sont les femmes qui souffrent de situations d'exclusion, de maltraitance et de violence, parce que souvent, elles se trouvent avec de plus faibles possibilités de défendre leurs droits. » Cependant, ajoute le pape, nous trouvons tout le temps chez elles les plus admirables gestes d'héroïsme quotidien dans la protection et dans le soin de la fragilité de leur famille. Il me semble que là, c'est ce cadre que le pape tresse au tout début. Bien sûr, il n'est pas exhaustif, mais il nous dit de fait toutes les situations aujourd'hui de marginalisation, de pauvreté, d'exclusion qui sont les nôtres. Pour arriver à ce constat, en ce sens, on peut dire que l'engagement en faveur des pauvres est pour l'élimination des causes de pauvreté. Voilà, cela reviendra tout le temps. Il faut bien sûr s'engager en faveur des personnes pauvres, mais aussi œuvrer pour éliminer les causes sociales et structurelles de leur pauvreté. Et le pape ajoute, voilà, on peut dire que l'engagement en faveur des pauvres et pour l'élimination des causes sociales et structurelles de la pauvreté reste toujours insuffisant. Il y a bien des choses qui se font, mais cela demeure insuffisant, d'autant plus que nous vivons dans un monde, c'est ce qu'il évoque un peu plus loin, où l'existence est souvent axée, je le cite, sur l'accumulation des richesses et la réussite sociale à tout prix, y compris au détriment des personnes pauvres. Je cite aussi, numéro 15, « Même les chrétiens, en de nombreuses occasions, se laissent contaminer par des attitudes marquées par des idéologies mondaines ou par des orientations politiques et économiques qui conduisent à des générations, à des généralisations injustes et à des conclusion trompeuse. Même les chrétiens peuvent se laisser contaminer. Il y a des attitudes, il y a des idéologies, il peut y avoir aussi parfois des orientations politiques et économiques. Ayant dit cela, le pape consacre son deuxième chapitre au choix des pauvres. Le titre, très simple, Dieu choisit les pauvres. Et après avoir évoqué assez rapidement toute l'histoire de l'Ancien Testament, le pape montre comment ce choix des pauvres trouve sa pleine réalisation en Jésus de Nazareth. Naissance à Bethléem, où il n'y avait pas de place pour eux dans le logement, fuite en Égypte, parents pauvres qui offrent à Jésus, qui offrent au temple ce qui était l'offrande des pauvres, des tourterelles, des colombes. Et en même temps, Jésus qui ne cessera de mener une vie pauvre. Les renards ont des tanières, vous connaissez cela, les oiseaux du ciel, en déni. Le Fils de l'homme, lui, n'a pas où reposer la tête. Ministère où Jésus vient surtout apporter la bonne nouvelle aux pauvres, mais ministère de Jésus qui se conclura par la pire des morts qui soit, celle d'un bandit, d'un criminel crucifié en dehors de la ville. Je vous lis ce passage. Jésus se manifeste donc comme celui qui, aujourd'hui, dans l'histoire, vient réaliser la proximité aimante de Dieu, qui est avant tout une œuvre de libération pour ceux qui sont prisonniers du mal, pour les faibles et les pauvres. Les signes qui accompagnent la prédication de Jésus sont une manifestation de l'amour et de la compassion. Vous savez que dans le mot compassion, il y a souffrir avec. De la compassion avec lesquels Dieu regarde les malades, les pauvres, les pécheurs, qui en raison de leurs conditions sont marginalisés par la société, mais également par la religion. Dieu montre en effet une prédilection pour les pauvres. C'est d'abord à eux que s'adresse la parole d'espérance et de libération du Seigneur. Et par conséquent, même dans la pauvreté ou la faiblesse, personne ne doit plus se sentir abandonné. Ayant dit cela, le pape évoque un certain nombre de situations, toujours par rapport à Dieu choisit les pauvres. Il y a l'éducation. J'étais très sensible à ce qui était dit ce matin par rapport à l'œuvre du père Sestac, où il y a ce souci aussi d'éducation. Et voilà ce qu'écrit. L'éducation des pauvres n'est pas une faveur, mais c'est un devoir. Les petits ont droit à la connaissance, condition fondamentale pour la reconnaissance de la dignité humaine. Les enseigner, c'est affirmer leur valeur en leur donnant des outils pour transformer leur réalité. À partir de là, le pape évoque aussi, je n'évoquerai pas tout, mais puisque vous êtes parmi nous ce soir, certains sont parmi nous, le pape évoque aussi l'accueil des migrants. Voilà. Et là, avec quatre verbes, accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. Et le pape ajoute, mais ces verbes ne valent pas seulement pour les migrants et pour les réfugiés, ils expriment la mission de l'Église envers tous les habitants des périphéries existentielles qui doivent être accueillis, protégés, promus et intégrés. Et à la question « Pourquoi cet accueil ?», la réponse est très simple. Tout être humain est enfant de Dieu. L'image du Christ est imprimée en lui. Il s'agit donc de le voir. Il s'agit donc de le voir pour ensuite, pour aider les autres à voir dans le migrant, dans le réfugié, non pas seulement un problème à affronter, mais un frère et une sœur à accueillir, à respecter et à aimer. Et dans ce contexte, le pape évoque aussi, il aurait pu évoquer le père Sestac, mais il évoque les filles de la charité, il évoque tous les ordres qui, dans l'histoire de l'Église, ont contribué à œuvrer, pas simplement à œuvrer, mais en faire en sorte que les personnes pauvres soient véritablement reconnues dans leur dignité et aidées. Ayant dit cela, le pape évoque, et c'est très intéressant, il évoque les grandes figures des premiers siècles de l'Église. Je crois qu'on ne connaît pas assez les premiers siècles de l'Église. Il y avait, alors on les appelle les pères de l'Église, pourquoi les pères de l'Église ? Parce qu'on considère que ce sont des évêques ou des prêtres ou des théologiens qui ont permis à l'Église de naître, et qui ont permis à l'Église aussi de naître dans la conscience sociale qui est la sienne. J'en citerai que trois. Saint Jean Chrysostome, il habitait à Constantinople, donc Istanbul aujourd'hui, là où est le pape. On l'appelait Bouche d'or, parce que quand il s'exprimait, on dit que il avait une parole très forte. Mais cette parole, elle est aussi très forte lorsqu'il exhorte les fidèles à reconnaître le Christ dans les pauvres. Et il a des prédications, je ne vais pas vous lire parce que le pape en cite plusieurs, mais il dit, vous voulez honorer le Christ dans vos églises. Vous avez de beaux calices, vous avez de beaux ornements, rien n'est trop beau. Mais si tu veux vraiment l'honorer, je cite, ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Et pendant qu'ici tu l'honores par des étoffes de soie, ne le méprise pas à l'extérieur en le laissant souffrir dans le froid et la nudité. Tu veux honorer le Christ, ne le méprise pas lorsqu'il est nu. Et pendant qu'ici tu l'honores, imaginez si un jour un de nos prêtres prêchait ainsi ou un de nos évêques, comment réagirions-nous? Et pourtant, c'est ce que faisait Saint Jean Chrysostome. Attention, j'honore le Christ ici avec tout ce qu'il y a de plus beau et je le laisse souffrir dans la rue alors qu'il est nu. Ambroise de Milan, grand archevêque de Milan, vous savez que c'est Augustin qui se convertira. Il se convertira en écoutant Ambroise de Milan, il se convertira en le voyant un peu lire la Bible. Et Ambroise de Milan a une phrase extraordinaire. Ce n'est pas ton bien que tu distribues aux pauvres. C'est seulement sur le sien que tu lui rends. Car tu es seul à usurper ce qui est donné à tous pour l'usage de tous. La terre appartient à tous et non aux riches. On est au 3e, 4e siècle de notre ère. Mais il y a cette conscience que si les biens nous ont été donnés, c'est pour qu'ils soient partagés entre tous et non pas détenus par certains. Et donc Ambroise de Milan n'hésite pas à dire, quand tu donnes à un pauvre, tu lui redonnes de ce qui lui appartient. Je ne sais pas si vous savez que dans la Bible, c'est un même mot en hébreu qui dit « aumône et justice ». C'est le même mot. C'est-à-dire qu'en donnant, je rétablis la justice. De même, le pape évoque aussi Saint Augustin. Le pauvre n'est pas seulement une personne à aider, mais la présence sacramentelle du Christ. À la suite de cela, la doctrine sociale de l'Église. La doctrine sociale de l'Église, on peut dire qu'elle va naître avec le pape Léon XIII. Vous savez que si le pape Léon a choisi ce nom, ce prénom Léon, c'est vraisemblablement en référence à Léon XIII. Léon XIII est le premier pape, on voit bien qu'il y avait des théologiens qui déjà avait donné des enseignements sur la manière d'accompagner les pauvres, de les aider. Mais on peut dire que c'est avec Léon XIII et sa première encyclique, C'est en 1881. Et ça s'appelle Rerum Novarum. Voilà, des choses nouvelles. Et dans ces sept lettres encycliques, le pape Léon XIII fait une critique assez forte déjà du capitalisme. Et il rappelle l'importance de l'attention aux pauvres, mais aussi l'importance surtout de lutter déjà contre les causes de la pauvreté, contre les causes structurelles de la pauvreté. C'est quelque chose que le pape Saint Jean-Paul II reprendra notamment. En conséquence, j'aurais voulu peut-être vous lire un petit passage de la lettre de... Voilà, je vais juste vous lire un petit passage de Léon XIII parce que ça peut être intéressant. Voilà ce qu'écrit ici. Voilà ce qu'écrit le pape. Le magistère, c'est l'enseignement de l'Église, des papes. Le magistère des 150 dernières années offre une véritable mine d'enseignement concernant les pauvres. Les évêques de Rome se sont ainsi fait des porte-paroles de nouvelles prises de conscience passées au crible du discernement de l'Église. Par exemple, dans la lettre encyclique Rerum Novarum, 15 mai, j'ai dit 1881, mais c'est 1891, Léon XIII aborda la question du travail en dénonçant la situation intolérable de nombreux ouvriers de l'industrie et en proposant l'instauration d'un ordre social juste. D'autres pontifes se sont exprimés dans ce sens. Saint Jean XXIII, dans la lettre encyclique Mater et Magistrat, se fit le promoteur d'une justice à dimension mondiale. Nous sommes en 1961. Et voilà ce qu'écrit Saint Jean XXIII, les pays riches ne peuvent rester indifférents face aux pays opprimés par la faim et la misère. Ils sont appelés à les secourir généreusement avec tous leurs biens. De même, le pape Léon évoque aussi un message radiophonique toujours de Saint Jean XXIII avant l'ouverture du Concile, 1962. Voilà ce que disait Saint Jean XXIII. L'Église se présente telle qu'elle est et telle qu'elle veut être, comme l'Église de tous, en particulier des pauvres. Donc on voit bien que tout au long de l'histoire de l'Église, c'est ce que montre aussi le pape Léon dans cette exhortation, depuis les premiers, ce qu'on appelle les pères de l'Église, jusqu'au texte du Concile, jusqu'à Jean-Paul II, en passant par tous ceux qui ont œuvré, aussi bien pour accueillir des personnes, pour l'éducation, pour accueillir des migrants, pour accueillir des pauvres. On voit bien qu'il y a une continuité. Pourquoi ? Je cite ici, c'est le numéro 110. « Pour nous, chrétiens, la question des pauvres nous ramène à l'essentiel de notre foi. L'option préférentielle pour les pauvres, c'est-à-dire l'amour de l'Église envers eux, comme l'enseignait Saint Jean-Paul II, est capitale. Elle fait partie de sa tradition constante, la pousse à se tourner vers le monde dans lequel, malgré les progrès techniques et économiques, la pauvreté menace de prendre des proportions gigantesques. Vous savez sans doute que dans notre pays, en France, la misère augmente. La situation de femmes seules avec des enfants, voilà, devient de plus en plus inquiétante avec des situations d'extrême précarité. la réalité, je continue le texte du pape, la réalité est que pour les chrétiens, les pauvres ne sont pas une catégorie sociologique, mais la chair même du Christ. La chair même du Christ. En effet, il ne suffit pas d'énoncer de manière générale la doctrine de l'incarnation de Dieu. Vous voyez comment cela peut résonner alors que nous nous préparons à fêter Noël, voilà, l'incarnation. Il ne suffit pas d'énoncer de manière générale la doctrine de l'incarnation. Pour entrer véritablement dans ce mystère, c'est-à-dire le mystère de Noël, que nous rentrons demain, ce soir, dans le temps de l'Avent. Voilà. Pour entrer véritablement dans ce mystère, il faut préciser que le Seigneur s'est fait chair, qu'il a faim. Il ne dit pas qu'il a eu faim, qu'il a faim, qu'il a soif, qu'il est malade et emprisonné. Et le pape Léon continue en citant le pape François, une église pauvre pour les pauvres commence par aller vers la chair du Christ. Vous voyez revenir cette expression, la chair du Christ. Le pauvre, la personne pauvre, comme présence sacramentelle du Christ. J'étais nu, vous m'avez habillé, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade, vous m'avez visité. Donc, pour entrer, alors, une église pauvre pour les pauvres commence par aller vers la chair du Christ. Si nous allons vers la chair du Christ, c'est le numéro 110 toujours, nous commençons à comprendre quelque chose, à comprendre ce qu'est cette pauvreté, la pauvreté du Seigneur. Si nous allons vers la chair du Christ, nous commençons à comprendre quelque chose, à comprendre ce qu'est cette pauvreté, la pauvreté du Seigneur. Et cela n'est pas facile. De ce point de vue, j'avoue avoir été très marqué par les chapitres précédents. Lorsque, après avoir indiqué qu'il s'agit pour nous de condamner aujourd'hui et de lutter contre les structures de péché qui créent pauvreté et inégalité extrême, il faut combattre. Je lis, c'est le numéro 97. Il incombe donc à tous les membres du peuple de Dieu de faire entendre, même de différentes manières, une voix qui réveille, qui dénonce, qui s'expose même au risque de passer pour des idiots. C'est dans le texte, mais c'est mis entre guillemets. Les structures d'injustice doivent être reconnues, détruites par la force du bien, par un changement de mentalité, mais aussi avec l'aide des sciences, de la technique, par le développement de politiques efficaces pour la transformation de la société. Donc après avoir dit cela, il y a deux ou trois paragraphes sur les pauvres comme sujets. Si c'est la chair du Christ que je rencontre lorsque je vais à la rencontre de personnes pauvres, alors ces personnes, je dois bien les considérer comme des sujets à part entière, pas simplement comme l'objet des soins que je pourrais prodiguer, de l'attention qui pourrait être la mienne à leur égard, des sujets. Voilà ce que écrit le Saint-Père. Cette attention aimante est le début d'une véritable préoccupation pour sa personne, à partir de laquelle je désire chercher effectivement son bien. Cela implique de valoriser la personne pauvre, valoriser dans sa bonté propre, avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Je ne suis pas là pour dicter des comportements. Je ne suis pas là simplement pour faire du bien, si je puis dire, mais je vais accueillir ce que la personne vit, ce qu'elle vit de différent par rapport à ce que je vis moi-même. Et je vais l'accueillir comme une occasion aussi d'enrichissement et de conversion personnelle. Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa manière d'être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le véritable amour est toujours contemplatif, toujours le numéro 101. Il nous permet de servir l'autre, non par nécessité, ni par vanité, mais parce qu'il est beau au-delà de ses apparences. C'est seulement à partir de cette proximité réelle, cordiale, que nous pouvons les accompagner comme il convient sur leur chemin de libération. Et c'est là, après le numéro 101, qu'il y a un autre numéro, 102. Je vous invite vraiment à lire ces passages, se laisser évangéliser par les pauvres. Se laisser évangéliser. Je vous lis. Ayant grandi dans une extrême précarité, apprenant à survivre dans les conditions les plus défavorables, faisant confiance à Dieu avec la certitude que personne d'autre ne les prend au sérieux, s'aidant mutuellement dans les moments les plus sombres. Les pauvres ont appris beaucoup de choses qu'ils gardent dans le mystère de leur cœur. Les pauvres ont appris beaucoup de choses qu'ils gardent dans le mystère de leur cœur. Ceux d'entre nous qui n'ont pas connu les expériences similaires d'une vie vécue à la limite ont certainement beaucoup à recevoir de cette source de sagesse qu'est l'expérience des pauvres. De cette source de sagesse qu'est l'expérience des pauvres. J'avoue que ce paragraphe m'a beaucoup fait réfléchir. Je vous le disais quand j'étais jeune et par la suite j'ai aussi souvent accompagné des personnes dont la pauvreté est plutôt une pauvreté psychique, pauvreté mentale. Et je dois dire que ça a toujours été pour moi une source d'enrichissement. Voir comment ces personnes, jeunes puis adultes, comment il y avait une relation privilégiée avec Dieu. J'ai vécu vraiment cela. Je me souviens d'un jeune qui s'appelait, c'était en Italie, qui s'appelait Massimo. Et ses parents étaient un peu éloignés de la foi. Ils me disaient, mais on ne comprend pas. Chaque fois qu'il passe devant une église, il faut qu'il y entre. Et il n'est jamais autant heureux que lorsqu'il est dans des églises. Et ce jeune homme, voilà, donc j'ai eu la chance de l'accompagner pour sa première communion. C'était à, ou la première des communions, comme on dit aujourd'hui, et c'était à Assise. C'était magnifique. Je n'ai jamais vu un visage aussi beau. Et je pense aussi à une autre jeune autiste. Ça, c'est à Dax, qui s'appelle Jean-Baptiste, pareil, avec des crises de grande violence, de grande angoisse. chaque fois qu'il se retrouvait dans l'oratoire, alors du séminaire, chaque fois c'était voilà, visage rayonnant. Il y a une sagesse, parce qu'il y a une proximité avec le Christ, parce qu'ils sont proches, moi je dirais, je crois pouvoir dire plus proches que nous. Et quand le pape écrit « Les pauvres ont appris beaucoup de choses qu'ils gardent dans le mystère de leur cœur. Ceux qui n'ont pas connu les expériences similaires d'une vie vécue à la limite ont beaucoup à recevoir de cette source de sagesse qu'est l'expérience des pauvres. » Après, il y a le style du pape François. Vous allez voir, ce n'est qu'en mettant en relation nos plaintes, on comprend que le pape veuille dire, voilà, nos plaintes parfois tellement superficielles. Ce n'est qu'en mettant en relation nos plaintes avec leurs souffrances et leurs privations que nous pouvons recevoir une réprimande voilà, qui nous invite à simplifier notre vie. La conclusion se présente, le titre de la conclusion, un défi permanent. Et le pape Léon XIV commence cette conclusion par la parabole dite du bon samaritain que nous connaissons. Vous savez, cet homme qui va trouver Jésus pour lui demander ce qu'il doit faire, voilà, pour obtenir la vie éternelle. Et puis Jésus lui dit, voilà ce que tu dois faire. Et puis il dit, mais qui est mon prochain? Et à ce moment-là, Jésus raconte la parabole, nous la connaissons, hein, voilà, de cet homme laissé à demi-mort avec ce prêtre, ce lévite qui passe, mais qui ne font rien, qui se détourne même. Et ce samaritain, un ennemi en réalité, qui lui s'arrête, s'approche, panse les plaies de cet homme et ensuite l'amène chez un aubergiste en donnant de son argent. Et la parabole, Jésus conclut la parabole en disant à cet homme, « Toi, va et fais de même. Va et fais de même. » La question, écrit le pape Léon, est urgente, car va et fais de même. La question est urgente car elle nous aide à prendre conscience d'une grave lacune dans nos sociétés et même dans nos communautés chrétiennes. Le fait est que de nombreuses formes d'indifférence que nous constatons aujourd'hui sont des signes d'un monde de vie répandu qui se manifeste de diverses manières, peut-être plus subtiles. Je continue. Ce sont les symboles d'une société qui est malade, parce qu'elle cherche à se construire en tournant le dos à la souffrance. Ce sont les signes d'une société qui est malade. Mieux vaut ne pas tomber dans cette misère. Regardons le modèle du bon samaritain. Les derniers mots de la parabole évangélique « Va, toi aussi, fais de même » sont un commandement qu'un chrétien doit entendre résonner chaque jour dans son cœur. Un commandement qu'un chrétien doit entendre chaque jour, résonner chaque jour dans son cœur. Et c'est là que le pape Léon XIII a des paroles très dures, Léon XIV, pardon. À des paroles que je trouve très dures, dans le sens que on ne peut pas ne pas les écouter, on ne peut pas les écouter sans se poser la question, en tous les cas, et moi, qu'est-ce que je fais? Je vous lis. Voilà. Toute communauté d'église dans la mesure où elle prétend rester tranquille, sans se préoccuper de manière créative et sans coopérer avec efficacité pour que les pauvres vivent avec dignité et pour l'intégration de tous. Toute communauté d'Église qui prétend rester tranquille, sans se préoccuper de manière créative, sans coopérer avec efficacité pour que les pauvres vivent avec dignité, court le risque de se désagréger. Même si elle s'occupe de thèmes sociaux ou de critiques des gouvernements, elle finira par être facilement dominée par la mondanité spirituelle. Dissimulée sous des pratiques religieuses, avec des réunions infécondes et des discours vides. Je ne vous cache pas que lorsque j'ai lu cela, ça m'a fait un coup au cœur. Elle finira par être facilement dominée par la mondanité spirituelle, dissimulée sous des pratiques religieuses, avec des réunions infécondes et des discours vides. Toute communauté qui prétend rester tranquille, des communautés d'Église, on l'avait entendu, sans se préoccuper de manière créative, créer, innover, sans coopérer pour que les pauvres vivent avec dignité et pour l'intégration de tous. Et on retrouve ensuite, alors je vous lis simplement cela, c'est le paragraphe suivant. Je ne vous lis pas tout parce que si je vais quand même, voilà. Cette attention spirituelle aux pauvres est remise en question par certains préjugés, y compris chez les chrétiens, parce que nous nous sentons plus à l'aise sans les pauvres. Vous savez, ce n'est pas une question nouvelle. Dans la lettre de Jacques, lorsque Jacques écrit sa lettre, il s'en prend aux chrétiens du premier siècle. Parce qu'il y a des discriminations au sein de la communauté chrétienne. Voilà. Évidemment, on va mettre les riches au premier rang et les pauvres, on les met au fond. Et si on peut les cacher, on les cache. C'était déjà ce moment-là. Et Jacques a des paroles extrêmement dures. Or, cette attention spirituelle est remise en question par certains préjugés, y compris chez les chrétiens, parce que nous nous sentons plus à l'aise sans les pauvres. Certains continuent à dire « Notre tâche est de prier et d'enseigner la vraie doctrine. » Citation. « Notre tâche est de prier et d'enseigner. » Mais en dissociant cet aspect religieux de la promotion intégrale, ils ajoutent que seul le gouvernement devrait s'occuper d'eux, ou qu'il vaudrait mieux les laisser dans la misère en leur apprenant plutôt à travailler. Ce sont des choses que l'on entend. Quelquefois, on adopte des critères pseudo-scientifiques pour affirmer que la liberté du marché conduira spontanément à la solution du problème de la pauvreté. Ou même on choisit une pastorale des soi-disant élites, élite est en italique dans le texte, en soutenant qu'au lieu de perdre son temps avec les pauvres, il vaut mieux prendre soin des riches, des puissants, des professionnels, afin qu'à travers eux, l'on puisse parvenir à des solutions plus efficaces. Vous voyez ? Il est facile de saisir la mondanité qui se cache derrière ces opinions. Elles nous conduisent à regarder la réalité au moyen de critères superficiels et dépourvu de toute lumière surnaturelle, en privilégiant des fréquentations qui nous rassurent et en recherchant des privilèges qui nous arrangent. C'est une mise en garde radicale, une mise en garde contre ce que le pape appelle, voilà, une forme de mondanité spirituelle, dont il nous dit qu'elle risque de conduire finalement à la désagrégation même de l'Église ou de nos communautés chrétiennes. Je conclus par une conclusion qui est assez étonnante, c'est celle du pape, qui après avoir évoqué, vous l'avez vu, l'importance de lutter contre les causes, contre les structures de péché, tout ce qui peut conduire aux injustices, aux marginalisations, après nous avoir invités à nous faire proches et à toucher la chair du Christ, après nous avoir invités aussi à rentrer dans une attitude qui n'est pas une attitude où on est au-dessus, mais où on est avec, et où l'on reconnaît dans la personne pauvre une personne détentrice d'une sagesse pour nous aujourd'hui. Et le pape termine par ce qui est un des grands commandements dans l'Église, qui est un des grands commandements dans l'Ancien Testament, sur l'aumône, donner encore aujourd'hui. Il se trouve que dans les Landes, nous avions, il y a quelques années, il est décédé, donc quand même, paix à son âme, je ne voudrais pas. Nous avions un député qui s'appelait Xavier Emmanuelli, socialiste. Xavier Emmanuelli, j'avais entendu un jour Xavier Emmanuelli dire « Oui, vous les chrétiens, vous faites comme Saint Martin, vous partagez. » C'est-à-dire, vous avez le manteau, vous le partagez, mais vous ne faites rien contre, sous-entendu, vous ne faites rien pour lutter contre les causes de la pauvreté. Nous le faisons. Bon, c'était un débat, on avait essayé de répondre. Mais on voit ici, après avoir évoqué tout ce que je vous ai dit, le pape termine sur donner l'aumône. L'aumône. Alors, il rappelle l'importance de cela dans l'histoire de l'Ancien Testament. Sois indulgent pour les malheureux, ne leur fais pas attendre des aumônes, et après. Vous serez donné l'aumône et l'aile de la prière, écrit saint Jean Chrysostome. Et Saint Grégoire de Nazianze, si donc vous m'écoutez, serviteur du Christ, frère et co-héritier, pendant qu'il est encore temps, visitons le Christ, soignons le Christ, nourrissons le Christ, habillons le Christ, accueillons le Christ, honorons le Christ, non seulement avec une table comme certains, mais en lui donnant tout ce que nous avons. Offrons-le-lui dans les pauvres, afin qu'à notre départ d'ici, il nous accueille dans les tentes éternelles. Donc le pape rappelle comment l'aumône est présente dans toute l'histoire de la Bible. Mais ce qui m'a fait comprendre l'importance de ce qu'il écrit, c'est au numéro 119. Voilà ce qu'il écrit. L'amour et les convictions les plus profondes doivent être nourris. Et cela se fait par des gestes. Rester dans le monde des idées, des discussions, sans gestes personnels, fréquents, sincères, sera la ruine de nos rêves les plus précieux. Pour cette simple raison, en tant que chrétiens, ne renonçons pas à l'aumône. Un geste qui peut être fait de différentes manières et que nous pouvons essayer de faire de la manière la plus efficace possible, mais nous devons le faire. Et il faudra toujours mieux faire quelque chose que ne rien faire. Dans ce contexte, en évoquant l'aumône, le pape évoque voilà ce qu'il écrit. Il est évident pour ceux qui aiment vraiment que l'aumône ne dégage pas les autorités compétentes de leurs responsabilités, ni n'élimine l'engagement des institutions, ni ne remplace la lutte légitime pour la justice. La suite. Mais elle invite au moins à s'arrêter et à regarder la personne pauvre en face, à la toucher et à partager avec elle quelque chose de soi-même. Je le dis pour ce qui me concerne, mais il est tellement facile de donner une pièce sans regarder la personne à qui on donne, ça me concerne. Difficile parfois de regarder, encore plus difficile d'entamer une conversation, de poser des questions, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous faites, voilà. C'est pour ça qu'il m'a semblé que ce n'était pas anodin si après avoir dit, bien sûr, l'aumône ne dégage pas les autorités de leur responsabilité, n'élimine pas l'engagement des institutions, ni ne remplace la lutte. Mais voilà, ce geste. Elle invite au moins à s'arrêter. Je me suis dit, finalement, ce que fait Jésus, il s'arrête. Les gens vont à lui, mais il va vers eux. Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette question que l'on retrouve constamment dans l'Évangile. Hein. S'arrêter, regarder la personne pauvre en face, la toucher, partager avec elle quelque chose de soi-même. Voilà pourquoi pour ça qu'il continue en disant « En tout état de cause, l'aumône même modeste apporte un peu de compassion dans une vie sociale où chacun court après son intérêt personnel. » J'étais étonné que le pape termine par l'aumône. Ça pourrait paraître dérisoire. Il dit même, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est vrai, il dit même que la charité est un mot aujourd'hui un peu galvaudé. Sauf que vous savez sans doute que derrière le mot charité, il y a agapé. Et quand je dis agapé, je parle de l'amour de Dieu. La charité, c'est l'agapé en action. C'est l'amour de Dieu. C'est-à-dire, voilà, c'est apprendre à aimer comme Dieu aime. Donc je vous dis, j'étais un peu étonné, et puis finalement je me suis dit, est-ce que le pape n'a pas raison de nous rappeler à la fin que ce qui compte c'est de s'arrêter, de regarder la personne en face, de la toucher, de partager avec elle quelque chose de soi-même. Et puis le tout se termine sur le fait que de par sa nature, écrit le Saint-Père, de par sa nature, cet amour-là, l'amour chrétien, est prophétique. Il est prophétique. Il accomplit même des miracles. On a évoqué le Père Sestac juste avant. L'amour chrétien est prophétique. Il accomplit des miracles, il n'a pas de limite, il est pour l'impossible. Cet impossible que Dieu peut faire. Mais un impossible à propos duquel Dieu a aussi besoin que nous l'aidions et que nous œuvrions. Je pense que les stèles que nous avons vues avec Marie, les stèles nous ont rappelé cela. L'amour chrétien brise toutes les barrières, rapproche ceux qui sont éloignés, unit les étrangers, rend familiers les ennemis, franchit des abîmes humainement insurmontables, pénètre dans les replis les plus cachés de la société. Il y a ce que nous avons à faire, mais dans la certitude que le Seigneur donne toute sa fécondité à ce que nous pouvons faire, aussi petit cela soit-il. Je vous remercie.
Vous venez de suivre Dilexité, la présentation de l'exhortation apostolique du Saint-Père Léon XIV par Mgr Pierre de Berger, enregistré samedi 29 novembre 2025 à Notre-Dame du Refuge à Anglette.